au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si j'en crois Paul McCartney, la Beatlesmania, c'est-à-dire la passion des Beatles, est née un certain 27 décembre 1960 lors d'un concert près de Liverpool. La salle, c'est une salle municipale, hein, la salle de Leatherland, on est à 12 km de Liverpool. C'était au départ pour une soirée dansante avec un certain nombre de groupes locaux. On entrait facilement pour 3 shillings. Ils étaient annoncés, ces Beatles, tout droit venu d'Hambourg. Et ça, c'est important. Il rentrait effectivement d'Allemagne, d'Hambourg. Et on peut dire que cette formation hambourgeoise a joué un rôle absolument essentiel dans leur carrière. Le groupe, ce soir-là, était composé de George Harrison, Paul McCartney, Pete Best, John Lennon, Chas Newby. Et quant à Ringo, il n'était pas encore membre du groupe. Ils vont chanter pendant 30 minutes ce soir-là. Leur première chanson, c'est Long Tall Sally, qui est une reprise de Little Richard. Le public s'avance pour mieux les voir. Vous savez, ça fait partie, au début, on lui dit, oh, bah, ils arrivent à un groupe de plus, quoi. Puis, là, quand même, ils attirent l'attention. Et très vite, on comprend qu'ils ne sont pas allemands. On avait cru, a priori, puisqu'ils étaient tout droit d'Hambourg, on se disait, bah, c'est des chanteurs allemands. Non, 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 pas du tout. Ceux qui avaient connu les Beatles avant leur départ pour Hambourg sont littéralement sidérés du changement. C'est plus les mêmes, on nous les a changés. Pete Best joue de la batterie avec force, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont habillés d'une façon incroyable, ils portent des jeans, des vestes de cuir. Faut savoir qu'à l'époque, le jean est vraiment cantonné aux tenues de travail, hein. C'est une tenue d'ouvrier, c'est quelque chose de très bon marché. Bref, c'est un très grand succès. Un agent qui assiste à ça, Dave Forshaw, dit qu'il joue si fort qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Ça change complètement les habitudes. Il faut vite leur ajouter une autre date. C'est Tony Sanders qui racontera. Un de mes amis m'a parlé de ce groupe fabuleux qui avait joué à Leatherland. Il portait des bottes de cow-boy, il piétinait sur scène. Une semaine plus tard, on sortait de scène au Entry Institute et ses gars venaient après nous. Lennon portait une veste en cuir et McCartney une veste donnant l'impression qu'il dormait avec depuis des mois. Mais quand ils ont attaqué, ça a tout de suite été incroyable. Il fumait des cigarettes sur la scène alors que c'était interdit. Et pour une chanson, Pete Best n'a joué que d'une main parce qu'il fumait de l'autre. On trouvait ça complètement dément. Alors d'où viennent-ils ces Beatles? Ils viennent, et c'est très important parce que ça fait intrinsèquement partie de leur formation, ils viennent de familles tout à fait modestes de cette Angleterre industrielle du lendemain de la guerre. Vous savez, ils sont de cette ville portuaire de Liverpool qui avait été copieusement bombardée par les aviateurs allemands. C'est un contexte difficile, hein, pour cette population ouvrière de l'Angleterre des années 45-46. On est en pleine reconstruction, certes, mais il y a encore, bien sûr, comme en France à l'époque, les tickets de rationnement, des privations de toutes sortes. Et évidemment, le rock sur cette génération naît pendant ou début de la guerre et qui arrive à l'âge de raison, comme on dit, à la libération. Enfin, à la libération pour ce qui est de la France, hein. En Angleterre, on n'a pas eu besoin de libération, mais en tout cas au moment de cette après-guerre, il y a évidemment pour ces jeunes gens une sorte de planche de salut dans cette musique venue d'Amérique et qui sera le rock'n'roll, bien entendu, parce qu'au départ, c'est comme ça que ça naît. John Lennon est né en octobre 40, vous voyez, son père était marin. Il a été élevé par sa tante Mimi et par son oncle George Smith. Mimi avait quand même été jusqu'à porter plainte contre sa sœur Julia auprès des services sociaux parce que le petit John dormait avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Vous voyez un peu l'ambiance, si je puis dire. On n'est pas très loin de Dickens, finalement, 80 ans plus tard. George, le bon tonton, meurt en 1955 d'une hémorragie du foie. On reste dans la note. À ce moment-là, John a 14 ans. Il est tout près de faire sa grande découverte. La découverte pour lui, c'est Elvis, évidemment. Il dira « Rien ne m'a vraiment touché jusqu'au jour où j'ai entendu Elvis. S'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles. » C'est une révélation pour lui. En écoutant le rock'n'roll, il a trouvé sa voix. Il sait maintenant ce qu'il veut faire. À 17 ans, sa mère est fauchée par une voiture. Il est très marqué par cet événement. D'ailleurs, il va laisser tomber ses études, mais aussi la musique pendant un certain temps. Et quand il la reprendra, ce sera pour écrire des chansons concernant sa mère. Il y en a une qui sera enregistrée par les Beatles en 68, c'est Julia, bien entendu. L'autre, elle est dans le premier album solo de John Lennon, Mother. Je vous propose d'ailleurs d'entendre maintenant cette chanson particulière. Il dit « Mother, you had me ». But I never had you. Maman, tu m'as eu, mais moi je ne t'ai jamais eu. Pas que vous pensiez que John Lennon est le seul à avoir eu cette enfance un peu sordide. Paul McCartney est né dans une famille, alors certes plus qui se tient mieux, si je puis dire, mais famille très modeste aussi de Liverpool, avec un père livreur qui faisait de la musique quand même à ses heures perdues et une mère infirmière. Lui reçoit quand même une bonne éducation, si vous voulez, avec de bonnes manières. Il entre au Liverpool Institute. C'est le gentil garçon, Paul, si vous voulez, celui que les professeurs apprécient. Il a 14 ans quand sa mère meurt au moment d'une opération. Elle a été atteinte d'un cancer du sein. Vous savez, à l'époque, c'était des opérations très invasives. Elle meurt. Et il se lance à ce moment-là, littéralement, lui aussi, dans la musique. Il va développer cette passion pour la musique et il compose notamment sur le piano familial « When I'm 64 », quand j'aurai 60 ans, vous savez, qui sera dans le célèbre album « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » en 1967. Alors George Harrison, le plus jeune du groupe, il est né en 43 seulement, lui, le 25 février 43, d'une mère vendeuse et d'un père chauffeur de bus également à Liverpool. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants et lui aussi, il a été touché non pas par la grâce, mais par Elvis. C'est exactement le même parcours que John, d'une certaine façon. Et au collège, il est complètement emballé par Elvis Presley. On l'appellera, lui, le Beatle timide. C'est un peu le discret, c'est le calme du groupe. C'est aussi, disons-le, celui qui va devenir le plus sarcastique. Et puis, celui qui les rejoindra, donc Ringo Starr, est né, lui, en juillet 40, sous le nom de Richard Starkey. Ses parents, Elsie et Richard, sont employés dans une boulangerie. Ils vont divorcer quand il a 3 ans. Vous voyez, on est toujours dans cette même ambiance, hein, évidemment. À 6 ans, il est victime d'une crise d'appendicite qui tourne mal, hein, qui tourne en péritonite. Il est opéré d'urgence et il va passer 10 semaines dans le coma. S'il s'en sort, c'est un véritable miracle. Et d'ailleurs, il va rester à l'hôpital pendant 1 an. Et très tôt, lui enchaîne les petits boulots, comme on peut faire dans le milieu dont il est issu. Il est garçon de course, il est barman sur un ferry boat, il est apprenti ajusteur, etc. On peut dire que la musique, ça va devenir son défouloir à lui. C'est son exutoire d'ailleurs. C'est tellement son exutoire qu'il est batteur. Ça ne s'invente pas. Il va prendre ce pseudo de Ringo Starr en 59. Il a 19 ans, au moment où il rejoint le groupe Rory Storm à The Hurricanes. Il choisit Ringo à cause de ses nombreuses bagues. Les bagues, c'est des rings en anglais. Vous voyez quand même le genre, hein, quand même. Et il va garder que la première syllabe de son nom de famille, donc Ringo Starr. Alors lui, c'est l'aîné des Beatles. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir dans quel genre ils s'inscrivent, évidemment. Vous avez compris qu'une grande partie, enfin, qu'ils sont tous plus ou moins fascinés par Elvis Presley, par ce mouvement du rock'n'roll qui vient des États-Unis, mais eux, ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils vont pratiquer notamment pendant leurs études, c'est ce qu'on appelle le skiffle. Ça, c'est fondamental. C'est cette espèce de un mélange de jazz, de folk, de blues. On peut jouer ça avec des objets de tous les jours. Vous savez, une planche à laver, un baquet à lessive, une caisse à thé, un manche à balai, une boîte à cigares. Pourquoi pas un peigne associé à une feuille de papier. Zip et grac, ça fait une musique, ça fait un rythme. Il y a cette espèce de rythme qui les emporte, ce style très vif, volontiers débridé. Ils sont déjà, on peut dire qu'ils ont le feu sacré. Et d'ailleurs, ils vont fonder très tôt un groupe. John avait commencé par fonder un groupe qui s'appelait The Black Jacks, qui est jamais monté sur scène, qui était devenu Quarrymen en 1956. Pourquoi Quarrymen? Parce qu'ils étaient, d'ailleurs, tous se retrouvent dans cette école qui s'appelle la Quarry Bank High School. Et donc, Quarry, les hommes du Quarry, si vous voulez. Et dans ce groupe, on fait bien sûr beaucoup de skiffle. C'est John qui s'impose naturellement comme le leader du groupe, dans cette espèce d'ambiance un peu jazzy, si on peut dire. Alors, ils montent sur scène de temps en temps pour animer des kermesses. Faut pas oublier qu'on est en Angleterre, hein, quand même. Pour des soirées d'anniversaire ou des concours de musiciens amateurs. John, Paul, George sont vraiment déjà très soudés, puisque Paul McCartney rejoint le groupe en octobre 57. Il avait rencontré John Lennon en juillet précédent au moment d'un concert dans une fête paroissiale. On est vraiment dans l'Angleterre éternelle en même temps. McCartney a impressionné Lennon au moment où il a interprété à la guitare et simplement à la voix pure plusieurs standards du rock, dont 20 Fly Rock d'Eddie Cochran. Vous savez, ça a complètement fasciné John Lennon. Il y a une amitié très forte qui est née entre les deux. Faut pas oublier qu'ils ont l'un et l'autre perdu leur mère aussi. Vous vous rappelez, dans des circonstances bien sûr très douloureuses. McCartney et Harrison vont par ailleurs donc dans le même établissement scolaire, ce fameux Liverpool Institute dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait qu'ils prennent le bus ensemble. Ils vont devenir peu à peu amis. Ils passent de longues après-midi à essayer de déchiffrer et reproduire leurs chansons de rock'n'roll préférées, parce que quand vous avez un tube que vous aimez à l'époque, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous achetez la partition. Alors le groupe n'est pas stable, hein. Il a été composé de John, Paul, George, mais aussi de Len Carey, Eric Griffith. Je pourrais citer un certain nombre d'autres noms. Je vais parler de Pete Best tout à l'heure, bien entendu. À cette époque, Ringo n'a donc pas encore rejoint le groupe, qui se produit sous divers noms. En 1958, on les voit se produire dans les caveaux de Liverpool, disons. C'est la grande époque de Saint-Germain-des-Prés. Alors, dans l'Europe entière, on veut faire pareil qu'à Saint-Germain. Mais alors, il y a le modèle et puis il y a la copie. Hein. C'est des rades. Il faut dire ce qui est. Ils se produisent dans de véritables bouges. La mère de Pete Best, donc du batteur, a monté son propre club qui s'appelle The Casbah Coffee Club. Dans la cave de sa maison, on joue là de la musique beat, hein, tout simplement. En juillet 1958, ça c'est important, ils vont enregistrer un 45 tours pour 17 shillings 6 pence, vous voyez le genre d'enregistrement, dans l'arrière-salle d'une maison qui se trouve au 53 Kensington à Liverpool. Cette maison est devenue mythique, bien entendu. Sur la face A, John Lennon chante « That'll be the day » de Buddy Holly. Et sur la face B, « In spite of all danger », qui est co-signé par Paul et George. Un exemplaire unique gravé. Et dès le lendemain, on détruit la bande magnétique. Hein. À l'époque, vous savez, on s'encombrait pas avec tout ça. Alors, le groupe va changer de nom plusieurs fois. Il s'appelle Rainbows, Johnny et les Moondogs. Finalement, il devient The Silver Beatles par allusion aux Crickets qui viennent d'accompagner Buddy Holly en janvier 60. Les Beatles, c'est les scarabées. Hein. Et puis, ça devient The Silver Beats. Alors là, il y a un jeu de mots avec la musique, la beat music. Et puis, The Beatles, un double jeu de mots avec un A. C'est sous ce nom-là qu'ils vont bientôt s'embarquer pour l'Allemagne, car je vous l'ai dit, tout s'est passé à Hambourg. Qu'est-ce qui s'est passé à Hambourg? Eh bien, nous y venons dans un instant. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.
today. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Yesterday, nous écoutions les Beatles qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur les Beatles par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons au début des Beatles avec vous, Franck Ferrand.
Ils avaient rencontré ces Beatles, ils s'appellent tout juste comme ça, hein, un certain Alan Williams, un agent très connu à Liverpool à l'époque. Il les avait rencontrés à l'époque où ils ne s'appelaient pas d'ailleurs encore les Beatles, dans son club qui s'appelle Jacaranda. On est en plein centre-ville. Et il les avait bien sûr tout à fait remarqués. C'est lui qui va les emmener, si je puis dire, de Liverpool à Hambourg. Il a eu l'idée, après avoir passé un week-end, vous savez, comme font les Anglais, ils vont passer un week-end sur le continent. Puis alors lui, en l'occurrence, il était parti d'Amsterdam. Pas oublier l'époque à laquelle on est. Hein. Amsterdam, le voilà parti à Hambourg. À Hambourg, il découvre un quartier incroyable. Ça s'appelle le quartier de St. Pauli, qui est d'une espèce de... C'est Hambourg au carré, si je puis dire, ou au cube. C'est-à-dire que vraiment, c'est la liberté à tout craint. On est dans la deuxième ville d'Allemagne. Une Allemagne qui a été ravagée par la guerre, bien entendu, qui s'est remontée avec une force incroyable. Et cette ville en général, et ce quartier en particulier, sont devenus de véritables symboles de liberté où tous les comportements sont plus ou moins acceptés, où on vit autant la nuit que le jour. Quartier hyper cosmopolite, vous voyez. Et il y a notamment là un club qui s'appelle le Kaiser Keller, la cave de l'empereur, dont Williams a rencontré le propriétaire, Kochnider, et lui a assuré qu'il y avait en Angleterre des groupes qui étaient tellement plus fun, tellement plus intéressants et amusants que les groupes allemands de l'époque. Et il a proposer ce Williams aux Beatles de les emmener là-bas. Ils sont quand même très jeunes à l'époque où ils partent pour Hambourg. Hein. Aucun n'a de permis de travail, ce qui veut dire qu'ils peuvent être foulés n'importe comment. D'ailleurs, c'est ce qui va finir par arriver. Le plus jeune, George Harrison, n'a que 17 ans. Paul McCartney, à l'époque, est encore au lycée. Il songe vaguement à devenir enseignant. Il a fallu qu'il persuade son père de le laisser partir. Ça n'a pas été une mince affaire, inutile de vous dire. Évidemment, Alan Williams, c'est là qui accompagne ce groupe. Alors, les voilà qui partent le 16 août 1960 à 10h du matin. Ils partent pas en avion. Les voilà, ils ont pris un petit van, si vous voulez, et ils s'entassent là-dedans. Il y a donc John, Paul, George, à la basse, Stu Stucliffe, qui est un copain d'école d'art de John, et puis donc... à la batterie Pete Best. Les bagages sont sur le toit. On traverse comme ça une partie, alors d'abord le ferry, puis une partie de l'Europe. C'est une, il faut imaginer leur excitation à ces garçons, bien entendu. En plus, au moment où ils entrent à Hambourg, ils vont percuter une voiture. Enfin, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Tout ça, c'est plutôt pour la petite histoire, si je puis dire. Et les voilà à leur première soirée au Kaiser Keller. Cette discothèque en sous-sol, assez grande, quand même, ça peut accueillir 500-600 personnes. Qui est la clientèle? Un peu tout ce qu'on trouve, mais des marins, pas mal, bien entendu. D'ailleurs, le décor de l'endroit est nautique, avec des sièges en forme de chaloupe, il y a des sirènes sur les murs. Enfin bon, on est à Hambourg, après tout. Beaucoup de musique. Au départ, il y a un jukebox, et puis des groupes de rock qui vont se succéder. Et sur scène, ce 17 août, il y a les Seniors, qui est un autre groupe anglais qui a été proposé à Kochnider, le patron de la boîte, par le fameux agent Williams. Il joue un certain nombre de morceaux. Et puis arrivent les Beatles. Alors, ils ont joué, ils sont d'abord passés par l'Indra, ce qui fait qu'au moment où ils arrivent, ils sont complètement épuisés, parce que quand jouer, quand on chantait, quand on s'appelle les Beatles, vous voyez ce que c'est. C'est une dépense d'énergie incroyable. Ils vont quand même honorer leur contrat. Il faut quand même vous dire qu'ils étaient partis de Liverpool la veille au matin, ils n'ont quasiment pas dormi, et vraiment très peu mangé. Bu, ça c'est peut-être une autre histoire. Ils vont passer la nuit, et alors là ils tombent littéralement de fatigue dans le cinéma que possède Kochnider. Hein. Ils sont installés à derrière l'écran sur des lits de camp, dans deux pièces sans fenêtres et mal éclairées. Ils vont continuer à jouer, à se produire dans cette autre boîte qui s'appelle donc l'Indra. Ils sont payés 30 Deutschmark par jour. Voici ce que dira l'un de leurs biographes. Ce ne fut pas facile. Dans leur correspondance, les chanteurs se plaignaient souvent de problèmes de voix. L'habitude de jouer si longtemps avait été prise avec les jets des musiciens professionnels, alors que les Beatles sortaient tout juste du lycée. Ça aurait pu tourner au massacre. Ben oui, ils ne sont pas habitués à jouer, à chanter comme ça pendant des heures. Donc c'est tout un entraînement, c'est un métier, et ça aurait pu tout simplement leur casser la voix à vie. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. Le club ferme le 4 octobre 1960. Les Beatles, à ce moment-là, vont passer au Kaiser Keller, donc. Ils s'y produisent 58 soirs de suite d'octobre, en octobre et novembre 1960. Ils sont toujours payés chacun 30 Deutschmark par jour, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Pour Koschmider, on peut dire que c'est tout bénéfice. Ils présentent chaque soir deux groupes britanniques pour faire une musique en continu qui, en gros, lui coûte rien. C'est quand même pas mal, ça. À Hambourg, les Beatles ont tout de même, sur un certain nombre des autres chanteurs, l'avantage de ne pas travailler la journée. Paul gagnait plus d'argent à Hambourg que son père ou ses professeurs, et il pouvait s'acheter des vêtements et de nouveaux instruments, rapportera l'historien de la musique Gottfriedson. Koschmider nous dira, en scène, les musiciens ne devaient ni manger ni fumer, et il y a un règlement très strict. Hein. Les vêtements doivent être propres, il faut une bonne allure, un langage correct. Et la conversation avec le public par l'intermédiaire du micro n'est pas bienvenue, vous voyez le genre. Par contre, alors, vous pouvez, autant que vous voulez, grimper sur le piano, sauter dans le public. Il faut que ça bouge, bien entendu. On est dans cette nouvelle musique, il faut faire venir du public au Kaiser Keller de cette façon. La scène n'était d'ailleurs pas très sûre, entre nous soit dit. Les Beatles et les Hurricanes s'étaient mis d'accord pour la détruire. C'est Johnny Guitar qui raconte ça. La scène, dit-il, était branlante et très dangereuse, et nous nous sommes mis d'accord avec les Beatles pour la démolir. Ils ont commencé par taper des pieds, ensuite on n'arrêtait plus de sauter dessus. Koschmider disait « C'est bien les gars, vous faites du bon show !» Bon, bah finalement, la scène est effondrée, mais tout le monde est content. Fin 1960, Alan Williams revient à Hambourg pour discuter avec Koschmider le contrat des Beatles. Il en profite pour les emmener en janvier 61 dans un studio d'enregistrement avec les Hurricanes. Ils vont enregistrer à ce moment-là trois chansons, Summertime, Fever et September Song. Il y a quand même, là encore, on est un peu comme dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il n'y a que quatre exemplaires créés, et celui d'Alan Williams d'ailleurs va se perdre le soir même dans un pub. Les Beatles viennent de découvrir Tony Sheridan qui joue au Top Ten, et rapidement ils décident de rompre leur contrat pour venir jouer sur scène avec lui. Et là, Bruno Koschmider est furieux, bien entendu. Il leur donne un mois pour revenir dans ses clubs et il les menace de les faire expulser. Il a dénoncé George Harrison à la police. Il avait moins de 18 ans, je vous l'avais dit. Il n'avait pas donc le droit de fréquenter un club après 22 heures. Le 21 novembre 1961, la plainte de Koschmider porte ses fruits puisque George est expulsé. Et là, Koschmider dénonce Paul et Pete par pure rancune. Ils sont venus récupérer leurs affaires au cinéma, qui s'appelle le Bambino, et il les accuse d'avoir essayé de mettre le feu au cinéma, ce qui est complètement faux, mais ils sont fauteurs de troubles. Allez hop, les voilà expulsés à leur tour. Quant à John Lennon, eh bien, il va quitter l'Allemagne 9 jours plus tard avec ses valises, avec sa guitare et avec son ampli. Paul, John, George et Pete se réunissent le 15 décembre 1960. Ils sont de retour à Liverpool. Qu'est-ce que vous voulez? Alan Williams ne peut plus rien pour eux. Et c'est comme ça qu'ils vont participer à ce tout petit concert de cette toute petite salle des environs de la banlieue de Liverpool. On est un certain, je sais plus si c'est 17 ou 27 décembre 1960. Ce dont je suis certain, c'est que pour eux, ça va être un incroyable triomphe. Le premier d'une interminable série. Bonjour Claude Lemel, merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, ce que nous allons faire maintenant, c'est revoir non seulement la vie de cette bande de quatre garçons dans le vent, mais surtout leurs œuvres les plus célèbres. Quand je dis célèbres, il est très rare évidemment que des morceaux de musique aient à ce point-là conquis la planète entière.